Le mot d'ordre de cette journée, c'est « engagez-vous ». Engagez-vous, petite allusion bien sûr à Astérix, je crois que c'est un légionnaire qui dit tout ça, « engagez-vous, rengagez-vous, vous verrez du pays ». Et en même temps, nous voulions avec Florence partager une des plus grandes joies que nous avons et que j'ai moi, de servir. Parce que c'est vrai que dans l'Évangile, il y a beaucoup de joie. L'Évangile est un texte magnifique, l'Église est une source de joie extraordinaire, mais il y a encore un niveau au-dessus. Le niveau 2, c'est servir, et c'est la plus grande des joies. Jusqu'à présent, notre mot d'ordre, c'était « venez comme vous êtes ». Et c'est vrai que nous sommes très fiers d'être une Église qui accueille sans poser de questions. On est une église qu'on appelle de multitude, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que ne peut être paroissien que celui qui est là tous les dimanches, qui donne de l'argent, qui s'engage, qui fait des choses. Et nous sommes une église qui ne préjuge pas, si vous voulez, de l'engagement des uns ou des autres. Et on dit effectivement, venez comme vous êtes, et vous êtes tous bienvenus comme vous êtes, et je crois que c'est absolument essentiel. Mais en même temps, il y a le niveau d'après auquel on voulait... pas vous inviter, ce n'est pas une injonction, mais nous voulions partager avec vous le fait de passer de l'état de consommateur à l'état d'acteur, ça change tout. Mais c'est vrai dans tous les domaines, hein, c'est très bien de regarder le foot à la télé, de jouer c'est encore mieux, écouter de la musique c'est bien, la faire c'est encore mieux. Et donc, voilà, soyez acteurs dans cette Église et engagez-vous. Parce qu'en effet, une Église, déjà, de toute façon, ne peut vivre que si certains s'engagent. Parce que rien ne se fait tout seul. Même ce bâtiment dans lequel nous sommes, cette église, elle a été construite par la volonté et l'engagement d'un certain nombre de familles que le pasteur Bercier est allé voir les unes après les autres en disant « on veut créer une paroisse dans le secteur de l'Étoile, aidez-nous ». Et ils se sont mis ensemble, ils ont construit cette église il y a 150 ans bientôt. Et certains des descendants de ces fondateurs sont encore parmi nous d'ailleurs et je les salue avec reconnaissance. Et donc c'est quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui encore, regardez tout ce qui est là, c'est si c'est là et si ça peut être fait, c'est que l'un de vous l'a offert. On offre des Bibles aux catéchumènes, chaque Bible vaut, je ne sais pas, 15 euros. Et bien chaque fois, c'est quelqu'un qui a donné 15 euros pour qu'on offre une Bible aux catéchumènes. Rien ne se fait sans rien. Et même, je dirais, si Florence et moi, nous sommes là au service de l'Église, c'est qu'il y a des paroissiens qui le veulent. Et sinon, ben, on ne serait pas là ou on ferait un autre métier parce qu'on n'aurait même pas de quoi manger. Et donc, tout ce qui se passe dans sa paroisse, dans cette paroisse, c'est dû à l'un ou l'autre d'entre vous qui s'est engagé pour le faire. Donc, c'est vrai que, par-delà le bonheur, nous avons besoin de chrétiens engagés. Et même si tout le monde est bienvenu dans l'Église, aujourd'hui, il y a une petite pique que nous voulions faire en disant « chacun devrait se poser un jour la question et de dire « et moi, quelle part puis-je prendre à cette œuvre ?» Parce qu'en effet, je comprends qu'un chrétien puisse être consommateur. Je dirais, un chrétien, une jeune pousse, elle consomme, et un jeune, quelqu'un qui découvre l'Évangile, consomme de la prédication. Mais on le sait, ceux qui viennent consommer des prédications passionnantes dans notre Église, en fait, ne restent pas. Donc, ils écoutent, puis quand on a entendu 10 prédications de Louis Pernaud et 20 de Florence, puisqu'il y a plus de contenu, ils disent « c'est bon, je fais le tour de la question, je m'en vais ». Et en fait, pour stabiliser la situation, il faut, à un moment donné, passer de l'état de consommateur à l'état d'acteur. Alors ça, cette injonction à s'engager, on la trouve déjà même dans l'Ancien Testament, et c'est ce qu'on apprend aux élèves de l'école biblique, quand le prophète Élie, qui est le nom du petit-fils de Florence, qui est né hier. Non. J'ai trahi un secret. Élie, il s'agace contre le peuple. Il dit, écoutez les gars, zut. Enfin, ça, ce n'est pas tout à fait dans la traduction, je l'ai rajouté. Et il dit, ça c'est vrai, jusque à quand clocherez-vous des deux pieds? Si c'est l'Éternel, si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Et si c'est Baal, c'est-à-dire n'importe quoi, ralliez-vous à lui, mais choisissez votre camp, camarade. Donc un jour, il faut choisir son camp. Qui on veut servir? et même en dehors de l'Église, à quoi nous voulons que notre vie serve? À quelle œuvre voulons-nous participer? Pas forcément l'étoile, mais à un moment donné, il faut se demander, finalement, on sert à quoi et qui? Alors chacun est libre, mais il faut faire des choix, il faut les faire, et ne pas choisir, c'est en fin de compte ne servir personne et ne servir à rien. Alors moi, ma réponse, ce serait celle que j'ai apprise aussi en faisant l'école biblique, parce que je n'ai jamais si bien appris la Bible qu'en essayant de l'enseigner aux enfants. C'est un autre effet de l'engagement. Quand Jacob dit pareil à ses concitoyens, il dit « Si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays que vous habitez. » Et Jacob dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Voilà. Écoutez, faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait mon choix. Donc, il y a un choix à faire. Il faut se positionner où on est pour, où on est contre, où on est prêt à servir Dieu et pas juste à l'écouter avec plaisir ou pas. Alors, tous les personnages dans la Bible sont comme ça, et en particulier Paul dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul. Vous savez, il est en chemin vers Damas, et puis tout à coup, il y a le Seigneur lui apparaît, et là, Paul a une bonne question, qui est celle que peut-être vous vous posez en disant « Je veux bien servir, mais qui ?» Et donc Paul a cette phrase formidable, qui avait été choisie d'ailleurs, vous savez que les catéchumènes choisissent un verset qu'on met dans leur Bible, donc là c'est pour ceux qui commencent dans 3 ans, et il avait choisi pour verset justement cette phrase de Paul que je trouve extraordinaire. Paul dit « Que ferai-je, Seigneur ?» Formidable. Que ferai-je, Seigneur? Donc voilà, je veux bien servir, mais qui quoi? Alors la réponse, eh bien, c'est Florence qui va vous la donner.
Je ne suis pas sûre de vous donner la réponse exacte, mais en tout cas, j'espère que ça suscitera chez vous des idées, si ce n'est des vocations. Que ferais-je, Seigneur? En effet, s'engager pour Dieu, c'est certes s'engager dans le monde pour œuvrer pour un monde plus juste, plus beau, plus fraternel, faire grandir encore et encore l'amour autour de soi. Mais s'engager pour Dieu, c'est aussi être capable de s'engager en communauté, avec les autres. Et ça, ce n'est pas rien. Parce que l'engagement personnel, c'est bien, mais il n'est pas possible de vraiment s'engager sans s'engager avec les autres. Et d'ailleurs, dès le début de l'histoire de l'Église, bon, c'est déjà vrai dans l'Ancien Testament, mais puisque ce qui nous concerne, nous, c'est l'histoire de l'Église dans les Actes des Apôtres, dès le début, la prédication des apôtres, eh bien, suscite de nombreuses vocations, comme on nous le dit au chapitre 2, donc c'est le début. Après avoir entendu cela, c'est-à-dire tout ce qu'a dit Pierre particulièrement, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Eux aussi, ils se demandent, « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et c'est en communauté qu'il le dit. Que ferons-nous? Ceux qui acceptèrent cette parole furent baptisés. En ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Et voilà une communauté naissante, florissante, en expansion. Et c'est ce qu'on souhaite. Mais voilà, c'est que dès qu'on est en expansion, dès qu'on est florissant, eh bien, il faut s'organiser. Il faut essayer de se donner les moyens pour grandir encore et encore. Et c'est ce qu'on fait très rapidement. Les apôtres, parce que au début ils sont 12, alors puis il n'y a pas beaucoup, mais puis 3000, puis 6000, puis 12000, et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, faut s'organiser, c'est ce qui se passe un peu plus loin dans le livre des Actes des apôtres. C'est intéressant parce qu'au chapitre 6, on nous dit les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur firent cette proposition. Il ne serait pas juste que nous cessions d'annoncer la parole de Dieu pour servir aux tables. Le service de table, c'est pas forcément bien traduit, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle aussi le diaconat ici, c'est l'entraide des plus pauvres de la communauté. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, et oui, évidemment, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous continuerons ainsi à donner tout notre temps à la prière et au service de la parole de Dieu. Alors voilà une église qui commence à s'organiser. Bon, moi, ça me plaît pas bien. Il y a ceux qui font le service et ceux qui annoncent la parole. vraiment, c'est pas tel comme ça que j'imagine l'Église. En effet, parfois, il y en a qui parlent mieux, en effet, et d'autres qui sont au service, mais en fait, cela devrait être mieux partagé. Mais d'ailleurs, continuer à lire le livre des Actes des Apôtres, ça ne demande pas d'une certaine cocasserie, c'est assez paradoxal, puisque dès qu'on les choisit, ces 7 diacres, juste après, il y en a un qui se fait arrêter, Étienne, et qu'est-ce qu'il fait ? Il se met pas à servir. Il fait un discours qui est le plus long discours, la plus longue prédication du livre des Actes des Apôtres et même, à mon avis, du Nouveau Testament. Donc, on voit bien que dès le début, eh bien, on peut, par moment, être au service, par moment, prêcher la parole. C'est ça, une communauté de dons, eh bien, où on peut, chacun, chacune, apporter ce qu'on a et parfois, eh bien, se dépasser et apporter encore plus que ce que l'on croit. Parce que la communauté, ça nous donne une force. Et donc, le succès de ces apôtres, de cette communauté naissance, eh bien, c'est justement être capable de vivre ensemble et de partager ses dons ensemble, de reconnaître les dons des autres également. Alors, en effet, il y a de cela. Engagez-vous. Engagez-vous et soyez prêts, eh bien, à faire peut-être même ce pour quoi vous ne vous étiez pas engagé. Mais il y a encore bien des choses surprenantes dans notre Bible. Mais avant tout, je laisse Louis.
Très bien, on veut bien s'engager, mais peut-être que vous vous dites, mais finalement, moi, qui je suis trop petit, je suis pas capable, j'ai pas assez de foi, pas assez de dons, pas assez de temps, pas assez de ceci, cela. Alors là, vous en faites pas, c'est prévu. Et c'est prévu dans l'Ancien Testament, pratiquement chaque fois que quelqu'un est appelé au service de l'Éternel, il commence par dire, mais non, Seigneur, moi, je peux pas, j'arriverai pas, j'ai trop petit, trop jeune, trop d'air. Et Dieu dit, écoute, j'en ai rien à faire de tes objections, tu y vas, point barre. C'est le cas, regardez en Exode 3, Moïse, quand Dieu l'appelle au buisson ardent, il lui dit, tu vas libérer le peuple. Moïse dit, mais je sais pas faire, j'y arriverai pas, ils m'écouteront pas, puis je parle pas bien. Alors Dieu, il essaye de trouver des solutions, il dit, écoute, t'es pas doué pour la parole, bon, c'est pas grave, je vais nommer Aaron, il parlera à ta place. Moïse continue de rechigner, finalement Dieu lui dit, écoute, tu m'embêtes, tu vas au boulot, point barre. Ou encore Jérémie, c'est la même chose, le prophète Jérémie, ou Gédéon, j'aime beaucoup la petite histoire de Gédéon. Quand Dieu l'appelle, il est écrit que l'ange dit à Gédéon, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Génial. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, mais si l'Éternel était avec nous, pourquoi nous arrive-t-il tout ça ? Et ils sont où tous les prodiges qu'avaient du temps de nos parents ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, bref, tout va mal. » Et Dieu lui dit cette chose extraordinaire, que j'ai aussi appris à l'école biblique. Dieu lui dit, « Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Tu sauveras Israël de la main de Madian. » Madian, c'était l'ennemi juré à l'époque. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Et Gédéon continue, le bougre. Il dit, ah, mon Seigneur, mais avec quoi sauverai-je Israël ? Voici que ma parenté est la plus pauvre, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alors l'Éternel, qui est quand même assez sympa et patient, il dit, écoute, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Donc voilà, se croire trop petit ou trop faible, c'est une fausse excuse. En tout cas, Dieu ne l'a jamais accepté dans l'Ancien Testament. Et même tout à l'heure, quand j'ai dit, il y a des étapes dans la vie, des moments où on est plus consommateur et des moments où on est plus acteur. Et j'allais dire, ben vous, les catéchumènes, ben vous êtes à l'époque consommateur. Ben c'est même pas vrai. Vous savez que la garderie, une garderie tous les dimanches, eh ben la garderie est faite régulièrement par un de nos catéchumènes qui a 14 ou 15 ans, ben on peut, et tous les scouts qui sont engagés, les chefs, mais même les chefs de patrouille, quand un chef de patrouille de 15 ans qui s'engage à s'occuper de petits de 11 ou 12 ans, c'est du service, hein, et donc en fait il y en a plein, et il n'y a pas d'âge pour servir, et il n'y a pas d'âge où on pourrait se contenter de consommer. Et donc en fait, toute l'histoire d'Israël, d'ailleurs, montre que les plus grandes choses ont souvent été faites par les plus petits et par ceux qu'on n'attendait pas. Et là, évidemment, Je ne peux que penser à l'histoire du petit Samuel, extraordinaire, au début du livre de Samuel, le petit Samuel, enfant, qui tout à coup deviendra un des plus grands personnages de la Bible. Et c'est pareil, son appel est absolument bouleversant.
Le petit Samuel, et moi je l'aime bien parce que quand j'étais petite, d'ailleurs encore maintenant, il y avait ce joli tableau où on voyait le petit Samuel en train de prier. Donc j'ai toujours aimé beaucoup ce petit Samuel. Ce qui est intéressant chez Samuel, c'est certes qu'il est petit et que Dieu appelle et se fiche de savoir si on est jeune, vieux, grand, beau, boiteux, bien portant. Il appelle chacun et chacune. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Samuel, c'est que Dieu l'appelle. Il est petit, il est là, et il sert le prophète Élie, pas celui de tout à l'heure, un autre prophète, Élie avec un H cette fois-ci. Il sert le prophète Élie, mais par trois fois Dieu l'appelle. Et par trois fois, Samuel ne comprend pas. Il pense que c'est Élie qui l'appelle. Alors ce qui est intéressant dans l'histoire de Samuel, c'est que pour comprendre l'appel de Dieu, on a besoin des autres. Tout à l'heure, je parlais de la communauté, de la manière dont elle s'organisait. Certes, c'est bien d'être organisé, mais il faut reconnaître et accepter que nous avons besoin des autres, être conscient de ça. Samuel, s'il n'y avait pas eu Élie, qui d'un seul coup comprend au bout de trois fois que Dieu appelle Samuel et qui dit à Samuel, c'est Dieu qui te parle maintenant, écoute, eh bien, il n'y aurait jamais eu le prophète Samuel. Il n'y aurait jamais eu le prophète Samuel si sa mère avant ne s'était engagé à le mettre eh bien, à disposition, plutôt au service d'Élie, c'est-à-dire au service de Dieu. Nous avons besoin des autres, que les autres s'engagent aussi pour nous aussi avancer dans l'Église, avancer dans le monde. Alors on parle de l'Ancien Testament, mais c'est vrai, du Nouveau Testament, Paul, ce grand homme Paul dont on parle énormément, mais qu'est-ce qu'aurait été Paul s'il n'avait pas eu autour de lui de nombreuses personnes? Dès le début, là, quand il tombe sur la route de Damas, si on ne l'avait pas amené, eh bien, jusqu'à Damas, alors qu'il ne voyait plus pour être baptisé, si il n'avait pas eu tous ces personnages, tous ces amis autour de lui qui œuvraient avec lui pour construire cette église, tel que c'est dit dans l'épître aux Romains, au chapitre 16, Timothée, mon compagnon d'œuvre, alors celui-là, il est bien connu, vous salue, ainsi que Lucius, Jason, Sosipater et mes parents, je vous salue, toi, Tertius, qui a écrit cette lettre dans le Seigneur, Gaius, mon oncle et toute l'église, Eraste, le trésorier de la ville, et oui, même à l'époque, il y avait déjà des trésoriers. Je vous salue, ainsi que les frères Cartus, et vous pouvez lire toutes les lettres de Paul, et vous voyez toutes ces adresses. Paul, tout le temps, était accompagné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands, parce que sans les autres, nous ne sommes rien. Nous avons besoin d'être dans une communauté qui s'engage.
Et puis n'oubliez pas ce que Dieu dit à Jacob et qu'il redit à Gédéon. Va avec la force que tu as et je serai avec toi. C'est-à-dire que Dieu nous accompagne et que Dieu peut nous donner la force. Et là, je crois qu'il faut remettre les choses dans le bon sens. C'est-à-dire que le service n'est pas une sorte de devoir qu'on s'impose comme une contrainte malheureuse et comme quelque chose de pénible, mais c'est plutôt Dieu qui nous vivifie, qui nous fortifie, qui nous fait vivre, et il faut que cette énergie serve à quelque chose. L'Évangile dit, j'aime cette phrase, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que notre action dans le monde, elle est comme un trop-plein, si vous voulez. Comme un trop-plein de joie qu'il faut que je partage, il faut que j'en parle à quelqu'un. Comme si vous dites, je ne sais pas, j'ai trouvé un lieu formidable, un endroit génial, il faut que j'aille le dire à mes amis, quoi, que je le partage avec quelqu'un d'autre. Ou alors j'ai lu un livre épatant, eh bien je veux le partager avec les autres. Ou même, s'il y en a quelques-uns qui parfois vont sur les réseaux sociaux, je trouve une image absolument formidable, j'ai dit « je partage ». Voilà, et donc c'est cet enthousiasme de dire « il faut que je le partage ». Dans l'Évangile, souvent, il y a ça dans certaines paraboles où la femme qui retrouve sa pièce dit « elle invite toutes ses amies pour faire une grande fête en disant « je partage ». Et donc voilà, ce que j'aime, c'est ça, C'est effectivement le service qui est comme un débordement de joie, d'enthousiasme, de bonheur, de confiance, d'espérance. Et donc, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et en même temps, si... Donc, il n'y a pas à le faire comme un devoir, je veux dire. Mais en même temps, s'il y a abondance de quelque chose dans son cœur, ce serait vraiment un péché de ne pas le laisser déborder. C'est-à-dire que si vraiment on est heureux, si vraiment on a trouvé quelque chose qui nous plaît, qui nous enthousiasme, comment peut-on garder cette bonne nouvelle pour soi ? Et garder enfermée la joie et la bonne nouvelle sans la partager, c'est en fait la tuer à l'intérieur même, sans qu'elle puisse grandir. Donc effectivement, notre joie, une joie, ça se partage, l'amour, ça se partage aussi, sinon elle s'éteint comme un rameau stérile. Et du coup, ce engagez-vous, je le ravale en disant, c'est pas engagez-vous, c'est soyez joyeux, soyez plein d'enthousiasme, de confiance, d'espérance, de joie, et que tout cela simplement rayonne autour de vous, et c'est la meilleure chose que vous pourrez faire pour vous et pour votre entourage.
Dieu nous invite donc à la joie. Il nous invite presque, on pourrait dire, à un festin. Dans le Cantique des Cantiques, d'ailleurs, il est écrit « Il m'a fait venir dans la maison de la joie et sa bannière au-dessus de moi, c'est l'amour ». Nous sommes ainsi invités à entrer dans cette sorte d'armée de l'amour. Vous savez, on fait des petits posts sur Facebook en mettant le thème du culte et puis il y a quelqu'un qui a remarqué, vous savez, on avait mis le Wanted des États-Unis et qui dit « Oh là là, c'est bien, on dirait que vous invitez comme à l'armée ». Ben oui, il existe une armée, et un combat qui n'est pas un combat violent, qui est un combat presque de douceur. Ce combat, eh bien, il est sous la bannière de l'amour, de la joie et de la paix que Dieu nous offre et à laquelle Dieu nous appelle. Ainsi, nous sommes invités à entrer, à nous enrôler sous cette bannière de l'amour. Et nous pourrons peut-être dire, ainsi que Paul, j'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire le combat de l'amour. Pourtant, on a été quand même très impératif, engagez-vous. Et parfois, dans nos existences, eh bien, nous le savons, il n'est pas le temps de s'engager. Nous sommes en difficulté, nous nous sentons faibles, nous nous sentons pas très bien. Eh bien oui, c'est ça la force de la communauté. C'est que parfois, parmi nous, il y en a... Je dis parmi nous, ça peut être moi aussi, il y en a qui sont là dans la difficulté, qui n'arrivent plus à avancer. Eh bien, la force de la communauté aussi, c'est d'être ensemble dans cet élan d'amour, de joie, pour que l'autre puisse petit à petit redécouvrir toute la valeur qu'il a. Vous savez, on parle souvent du double commandement d'amour, aimer Dieu et aimer son prochain. Mais c'est aimer son prochain comme soi-même. Eh bien, par moments, nous ne nous aimons pas. Eh bien, la communauté peut nous faire redécouvrir cet amour de soi, cet amour de Dieu qui, justement, nous dit toute notre valeur. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, lorsque ce commandement est énoncé, juste après, il y a l'histoire du bon samaritain. Et dans l'histoire du bon samaritain, on peut être être le samaritain, en effet, qui aide l'homme qui est à terre, mais parfois, on est l'homme à terre aussi. Eh bien, oui, c'est cela la force de la communauté. Il faut accepter que d'autres puissent être dans le besoin, y compris dans la communauté, et l'aider pour que lui aussi il découvre la joie, le bonheur de s'engager à nouveau. Parce que l'engagement, comme Louis l'a dit, c'est un bonheur. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous peser, qui doit nous contraindre. Bien sûr qu'il y a des contraintes dans l'engagement, mais ces contraintes, elles doivent nous apporter plus de joie que de difficultés. Parce que se mettre au service de l'amour, se mettre sous cette bannière, c'est quelque chose de fantastique. Et je reconnais que être pasteur, eh bien, c'est pratiquement tous les jours se mettre sous cette bannière. Alors, on n'est pas toujours très très bon, justement, mais on essaye. Et c'est fantastique d'être pasteur, parce que c'est notre boulot, être sous la bannière de l'amour. Et heureusement qu'il n'y a pas que les pasteurs, que vous êtes là aussi, parce que sans la communauté, l'Église ne serait rien. Évidemment qu'il y a quelques pasteurs plus ou moins bons dans les églises, mais c'est la communauté qui fait l'Église, la communauté une et unie. Donc, eh bien, nous avons cette mission, celle de partager l'amour. L'amour, c'est le partage. Nous ne sommes pas là uniquement pour entretenir une communauté pour la communauté, mais nous sommes là pour partager ce message d'amour, de paix, de joie, que nous ne pouvons jamais garder égoïstement. Alors oui, mes sœurs et mes frères, comme on dit si bien en Église, nous sommes là ensemble pour nous engager sous la bannière de Dieu, sous la bannière de l'amour. Amen.